Alors, bonjour. Je crois que Françoise Dolto disait bonjour à tous et à chacun. J'ai vu certains d'entre vous ce matin, donc rebonjour pour eux et bonjour aux autres. Donc, je suis Chantal Calatayud, je suis psychanalyste et didacticienne analytique. J'ai créé il y a plusieurs années maintenant l'Institut français de psychanalyse appliquée sur Avignon. J'ai choisi de présenter donc une hypothèse analytique quant au sujet d'aujourd'hui, quelle parole face à l'IVG, selon quatre grands axes. Tout d'abord, l'embryon, un sujet à part entière, et je mettrai les raisons qui m'ont poussée à ne pas mettre cette phrase à la forme interrogative, malgré l'antinomie des termes embryon et sujet. Ensuite, peut-on parler de violence dans l'IVG ? Je dissocierai la violence psychique de la violence physique. Des parents vulnérables à l'IVG, de quel profil de parents s'agit-il face à l'IVG et qu'appelle-t-on vulnérabilité donc en analyse dans ce cas-là ? Et enfin, comment accepter la vie lorsque Thanatos, la pulsion de mort, règne et prend le pouvoir sur la pulsion de vie Eros. Donc je vous disais il y a quelques instants qu'il y a une réelle difficulté à faire flirter les termes embryon et sujet. Si on se réfère à Sigmund Freud, le terme de sujet n'est envisagé qu'à la fin de la période dite d'identification à la mère. On retrouve des choses similaires quant à la périodicité. Chez Carl Gustav Jung, il parle d'individuation. Quant à Jacques Lacan, pour lui, il s'agit du stade du miroir. Et je pourrais citer encore Spitz, un psychiatre américain d'origine hongroise, qui situe le terme de sujet aux environs du 18e mois de la vie de l'enfant. Donc on voit que de toute façon, même si tous les courants ne sont pas d'accord d'ailleurs à ce sujet, l'enfant, de toute façon, dans tous ces cas-là, est déjà venu au monde. En ce qui concerne l'embryon, et si la médecine a beaucoup évolué en ce qui concerne l'organogenèse, notamment grâce à l'échographie, grâce aux compétences des échographistes, il est certain qu'au niveau de la psychogenèse, l'embryon reste une énigme à part entière. Donc, toujours pour construire une hypothèse analytique, je suis partie de deux choses qui me sont apparues importantes quant à l'embryon. Tout d'abord, une phrase très lapidaire de Sigmund Freud, un grand libéral qu'il était, et qui nous a asséné « L'anatomie, c'est le destin ». Il est certain que déjà dans cette notion de destin, il y a quelque chose de l'ordre de la prédétermination, même si cela peut sembler tout à fait illogique quant à la position, bien sûr, d'un embryon. Et puis, surtout, des travaux qui sont très importants, un postulat de Freud, toujours, le par-excitation. Le par-excitation est un processus psychophysiologique qui amoindrit les traumatismes venant de l'extérieur pendant la gestation. Freud de dire que si l'embryon ne bénéficiait pas du par-excitation, il se diviserait d'avec lui-même, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas se développer. Cependant, et comme toujours chez l'être humain, il y a ambivalence, c'est-à-dire ce par-excitation qui est très protecteur va présenter une sorte d'inconvénient, à savoir que l'embryon donc est coupé de l'altérité, il pose même un déni quant à l'autre, et de fait, il va vivre malgré tout un état de toute puissance, et on parle déjà de narcissisme primitif. Effectivement, l'embryon peut déjà se vivre le maître de l'univers. Si nous nous situons à l'extérieur, nous allons effectivement trouver la première personne qui soit en lien avec l'embryon, c'est-à-dire la mère. Et l'embryon déjà a une communication avec elle. C'est-à-dire que ce que nous constatons chez une jeune femme en début de grossesse et dans la plupart des cas, c'est qu'elle présente des nausées, voire des vomissements. On sait maintenant que plus une jeune femme est angoissée, plus elle va présenter ce genre de tableau. Donc on pourrait dire que c'est comme si l'embryon était là, bien sûr, Et dès qu'il est là, avec les moyens dont il dispose, il le fait savoir. Mais en fait, qu'en est-il donc de cette communication déjà corporéisante, de cette communication vomitive, de ce transfert nauséeux ? Eh bien, nous pourrions dire qu'il angoisse la mère. Selon une expression lacanienne, on pourrait dire qu'il hystérise la mère, qu'il la somatise ou qu'il la somme, mais il la somme de quoi ? Eh bien, c'est comme si déjà il disait à cette mère toute la responsabilité de la vie qui se développe en elle. Aura-t-elle finalement la capacité à accueillir un enfant qui sera peut-être très différent de ce qu'elle avait imaginé ? Aura-t-elle la force de supporter une mort in utero ? Aura-t-elle la force de supporter un enfant handicapé, un enfant délinquant, un enfant alcoolomaniaque, toxicomaniaque, un enfant qui un jour peut faire de la prison ou qui tout simplement peut perdre la vie prématurément. On voit d'ailleurs que effectivement les nausées peuvent renvoyer au mal de mère-eux, donc on voit qu'il peut aussi y avoir une difficulté bien sûr affective. Dès l'instant où la mère effectivement présente ce genre de tableau, elle peut être poussée à interrogation, qu'il s'agisse d'une interrogation implicite ou explicite. C'est-à-dire que si une jeune femme a engrammé, c'est-à-dire a retenu par schématisation, par reschématisation et surtout par identification une image quant à sa propre mère de mauvaise mère, il est certain qu'elle peut avoir elle aussi une impression quant à elle de limite limitative pour accepter la venue d'un petit être. Alors il peut s'agir de jeunes femmes, à tort ou à raison d'ailleurs, peu importe, puisque vous savez que le fantasme déforme, mais une jeune femme qui a eu une mère qui elle aussi est perdue un enfant prématurément, ou ait fait des fausses couches, ou ait eu un enfant handicapé, ou qui ait quitté le père donc de la jeune femme qui serait enceinte pour des raisons affectives, etc., etc. Donc on voit effectivement que l'embryon joue un rôle qui est beaucoup plus important que ce qu'il peut paraître. Et en analyse, l'on considère qu'un individu est sujet dès l'instant où il permet une interrogation chez l'autre. Et c'est ce qui m'a poussé donc à ne pas mettre de forme interrogative à cette première identité. Mais peut-on parler de violence dans l'IVG ? Alors, deux choses sont à considérer. Tout d'abord, une violence que l'on pourrait donc dire physique. Et pour étayer ma réflexion, je suis allée voir du côté d'adolescents qui s'automutilent. Que constatons-nous chez un adolescent qui s'automutile ? Eh bien, c'est qu'il ne ressent aucune douleur physique. On dit en analyse qu'il subit un clivage psychisme-corps. Il est sur un processus dit schizoïde de coupure, c'est-à-dire que l'on retrouve ce que je disais tout à l'heure, à savoir cet embryon donc, qui pose un déni sur l'extériorité de par le parexcitation. Donc effectivement, si on considère qu'un adolescent est prépsychosé, voire psychosé, nous retrouvons la même particularité donc, chez l'embryon qui de fait présente les mêmes caractéristiques. Donc l'on peut considérer d'un point de vue analytique qu'une interruption de grossesse n'est pas en tant qu'acte chirurgical douloureux pour l'embryon, donc au sens physique du terme. D'un point de vue psychique, les choses sont différentes. Il existe, pour nous analystes, des IVG dites but et des IVG sens. Qu'est-ce qu'une IVG but ? Une IVG but est une IVG qui va permettre à la jeune femme qui est enceinte et qui décide donc d'avoir recours à cet acte de prendre le pouvoir sur l'entourage. Ce peut être sur le mari, ce peut être sur la famille, voire sur la société. C'est-à-dire ce sont des jeunes femmes qui, dit-on en analyse, rationalisent, qui consultent en disant « voilà, j'ai pris la décision d'avoir recours à une analyse parce que vous comprenez, mon mari me trompe et c'est un choix qu'il fait. Alors il n'est pas question que je garde une grossesse. » Ou alors une jeune femme qui peut dire, vous savez, mon mari a pris la décision de faire construire une maison, on n'a pas d'argent, je lui ai dit que c'était déraisonnable, nous avons déjà deux enfants, je suis enceinte, donc pas question qu'un autre enfant arrive. Ou une jeune femme qui pourrait dire, ma mère m'avait juré sur son lit de mort que je m'occuperais de ma sœur handicapée jusqu'à la fin de mes jours, j'ai déjà des enfants, donc il est bien évident que là, trop c'est trop. Donc on voit que dans ces attitudes projectives, il y a quelque chose donc de l'ordre de la destruction et de l'ordre de la prise de pouvoir. Et on dit que l'inconscient retire à ce moment-là un bénéfice, bien sûr c'est un terme qui est négatif en analyse, à type de jouissance. Là, il s'agit donc d'une IVG but qui ne va strictement rien apporter quant aux protections des générations qui en découlent, puisqu'on verra qu'une IVG sens peut être quelque chose de beaucoup plus salvateur que ce que le geste en lui-même peut le laisser supposer. Donc, on pourrait dire, alors que l'analyse, bien sûr, ne juge pas, vous le savez, à ces jeunes femmes, on pourrait être enclin à leur dire qu'elles évoluent quand même dans une société qui met à leur disposition des contraceptions multiples et variées, pour la plupart bien adaptées, et qu'elles auraient quand même pu chercher à se protéger. Par contre, il existe effectivement des IVG sens. Pour étayer ma réflexion, j'ai choisi de vous parler d'une de mes patientes qui était venue me consulter pour une stérilité dite psychique. Et comme très souvent dans ces cas-là, il avait fallu à peu près 6 mois pour qu'elle m'avoue, entre guillemets, qu'elle avait eu recours à 2 IVG précédemment. Que retrouvait-on dans l'anamnèse ? Eh bien, son histoire rapportait l'importance d'une grand-mère maternelle qui était pianiste dans des cabarets, qui avait été violée, petite fille, par un père alcoolique et qui avait perdu un petit garçon de 4 ans. Cette patiente, à l'époque, était chanteuse dans des bars, une chanteuse tout à fait méconnue et qui rencontrait beaucoup de galères. En ce qui concerne ces 2 IVG, le père était le même dans les 2 cas. Chez le compagnon, puisque ce couple n'était pas marié, on retrouvait un père qui avait été abandonné à la naissance. Alors, qu'en était-il donc du rôle de ces IVG ? Eh bien, tout simplement, je reviens sur ce terme de bénéfice, on voit que l'inconscient de cette jeune femme cherchait à la fois à reschématiser l'histoire de la grand-mère maternelle, à prendre une part d'ailleurs de responsabilité, ce qui est un comble, puisqu'il est évident que les choses se passaient en amont de son existence, mais l'inconscient, a fortiori lorsqu'il est tout puissant, est extrêmement culpabilisé et va chercher des attitudes très masochiques. Donc, elle reschématisait le fait de perdre un enfant comme cette grand-mère maternelle, mais elle le perdait pour de faux et non pas pour de vrai. Elle ne prenait pas du tout le risque de mettre un enfant au monde. D'autant que le compagnon, de son côté, fantasmait ne pas avoir intégré le nom du père, N-O-N, c'est-à-dire les limites qui renvoient au tabou de l'inceste, puisqu'effectivement, il y avait une problématique quant au nom du père, N-O-M. Donc on voit bien que si ce couple avait eu un enfant, avant bien sûr le travail analytique, eh bien c'est comme si, fantasmatiquement, il prenait le risque non seulement d'avoir un enfant violé, mais de perdre aussi cet enfant. Par contre, on ne croit pas au hasard en analyse, mais cette jeune femme ayant eu recours à un travail analytique, le travail analytique permettant toujours une désidéalisation et une déculpabilisation quant à des fautes que nous n'avons pas commises, elle a pu dans un premier temps se reconvertir professionnellement. Elle a eu d'ailleurs ensuite une fausse couche, mais elle a pu mettre au monde quelques mois plus tard une petite fille. À ce moment-là, donc, on parle d'IVG sens, puisque là, il y a une bonne coupure quant à l'héritage transgénérationnel. Mais alors, peut-on parler de vulnérabilité quant aux parents qui ont recours aux interruptions volontaires de grossesse ? Et qu'entend-on surtout analytiquement par ce terme de vulnérabilité ? Un parent vulnérable, en analyse, est un parent qui a peur et qui a peur du plaisir. Le plaisir étant à envisager de l'ordre d'un plaisir psychosexuel. C'est-à-dire que c'est un parent qui va mettre, de façon d'ailleurs beaucoup plus implicite qu'explicite, un interdit sur le plaisir, en règle générale. C'est-à-dire que ce sont des parents qui vont dire à l'enfant « fais attention ». Alors vous allez me dire « c'est extrêmement protecteur ». Oui, mais pas tant que cela, car c'est sans compter sur le récepteur qu'est l'inconscient. On pourrait prendre pour exemple un jeune homme qui vient d'avoir son permis de conduire. Les parents sont a priori d'accord pour lui prêter le véhicule. Et dès qu'il s'installe au volant de la voiture, il entend de concert « fais attention ». Implicitement, qu'en est-il ? Eh bien, les parents disent à l'enfant « on te prête la voiture, mais gare à toi si tu la casses. » Ce peut être le cas aussi d'une jeune fille sous pilule et la mère de lui rappeler à longueur de journée « fais attention à ne pas oublier de prendre ta pilule. » C'est-à-dire que je te donne les moyens de te protéger d'une grossesse, mais gare à toi si tu reviens enceinte. Dans les deux cas, il y a un invariant, c'est-à-dire que la voiture permet effectivement de prendre une certaine liberté qui peut aller jusqu'à la rencontre affective, jusqu'à la rencontre quant à une sexualité, ce qu'on pourrait appeler une indépendance, et on retrouve la même problématique au niveau d'une angoisse quant au plaisir dans le cas donc d'une jeune fille sous pilule. Pour peut-être étayer davantage aussi ces exemples, je pourrais vous parler, bon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent les travaux de Sigmund Freud sur les topiques, mais malgré tout, je vais repasser un petit peu par de la théorie, même si ce n'est pas très agréable. Je vais essayer de schématiser au maximum parce que les travaux sur les topiques donc, de Freud font vraiment prendre conscience de ce qu'est l'interdit sur le plaisir en analyse lorsqu'il s'agit bien sûr d'une prise de pouvoir, là encore, des parents sur l'enfant. Il est bien évident qu'un parent doit poser des limites à son enfant lorsque l'enfant est déraisonnable et bien sûr toujours sous l'entière responsabilité des parents. Mais dès l'instant où un enfant a un permis de conduire, on ne voit pas très bien pourquoi, effectivement, on va lui asséner encore une fois des limites limitatives. Alors Freud a postulé, donc, quant à ses travaux sur les topiques, en deux temps. Il y a eu d'abord les travaux sur les premières topiques qui remontent à 1900 et les travaux sur les deuxièmes topiques 1920. En 1900, Freud s'est rendu compte que les cures analytiques n'étaient pas vraiment ce qu'il en attendait. Il devinait qu'il pouvait y avoir une beaucoup plus grande libération d'affect que ce qu'il obtenait jusque-là. Et il s'est surtout rendu compte que l'individu était divisé d'avec lui-même, c'est-à-dire que lorsqu'une partie de soi dit oui, la plupart du temps, et très peu de temps après, une autre partie de l'individu dit non, ou l'inverse. Lorsqu'une partie de l'individu dit non, très souvent nous changeons d'avis, d'ailleurs cela est une position dite hystérique en analyse à type de non-choix, et une autre partie de l'individu va dire oui. C'est-à-dire, sont toujours les mêmes exemples, c'est-à-dire qu'on décide d'arrêter de fumer, on n'y parvient pas, on décide de ne plus jamais aller voir la cousine, on ne peut s'empêcher de le faire, etc. etc. Donc, malgré la difficulté quant au processus d'abstraction d'une vie intrapsychique, Freud a divisé cet appareil spatial en trois parties. L'inconscient, le préconscient et le conscient. Le préconscient est une barrière redoutable donc qui isole l'inconscient du conscient. Jacques Lacan parlait d'une barre qui frappe le sujet, c'est tout à fait de cet ordre-là. Le préconscient, c'est le lieu de la résistance, c'est le lieu du refoulement, c'est le lieu, c'est l'espace de l'acte manqué, de l'oubli, de l'omission, etc. C'est-à-dire lorsqu'une énergie vient de l'inconscient, c'est vrai qu'elle peut tout à fait passer ce barrage-là et arriver au conscient. Mais lorsqu'il y a refoulement, effectivement, c'est qu'il y a un interdit. Et à ce moment-là, nous parlons de scotomisation. Donc le temps a passé et Freud s'est rendu compte que la qualité des abréactions en cure était insuffisante selon lui, l'abréaction étant justement une énergie de sens contraire à la scotomisation. Nous devons, en tant qu'analystes, permettre l'abréaction de nos patients, c'est-à-dire la libération d'affects qui finalement nous polluent. Et notamment d'affects dits coincés par Freud, c'est-à-dire de ces affects redoutables qui permettent justement des reschématisations d'histoire qui ne sont bien sûr pas la nôtre. Donc il a redécoupé cet appareil psychique en trois instances. Il a découpé l'inconscient selon deux instances. Tout d'abord le « ça », d'ailleurs de façon... ironique, il nous a asséné qu'au commencement était le ça. Le ça, c'est le principe de plaisir, c'est l'assoiffé d'amour, c'est le boulimique des voies faciles. Le ça ne connaît pas les limites, mais il va trouver un maître, alors plus ou moins juste, qui est le surmoi. Et le surmoi, dans une logique des choses, bien sûr, devra s'opposer aux élans débridés du ça. Mais il existe des parents qui posent des interdits systématiques, c'est ces parents auxquels je faisais allusion tout à l'heure, que nous appelons en analyse des profils psychorigides, et effectivement, qui ont peur du plaisir. Donc on voit que ce surmoi est un surmoi qui est redoutable, qui est pathologique, et qui finalement va obtenir comme bénéfice d'affecter tout ce qui touche au plaisir. Qui est-ce qui fait les frais de cette lutte que nous appelons complexe en analyse, la lutte entre le ça et le surmoi? Eh bien, c'est le moi. Le moi est le soma, c'est le siège des somatisations. Et effectivement, nous pouvons tout à fait apparenter une IVG à une forme de somatisation. Donc encore une fois, un parent vulnérable est un parent qui a peur. Il faut savoir qu'il existe de longues chaînes de parents surmoïco-castrateurs dans l'héritage transgénérationnel. Et effectivement, le plaisir devient extrêmement censuré, et c'est le meilleur moyen, bien sûr, pour qu'il soit transgressé de façon, là aussi, tout aussi pathologique. Alors on voit que les choses ne sont pas simples, et finalement, comment accepter la vie ? Alors là aussi, j'ai choisi de prendre deux axes de réflexion différents. Tout d'abord, une question qui nous est posée relativement régulièrement en séance analytique, à savoir, existe-t-il un moment idéal pour mettre en route une grossesse ? Oui, de répondre la psychanalyse. Après tout, il peut être aussi légitime d'essayer de donner un maximum de chances à un enfant en devenir, et les parents peuvent avoir aussi envie de se protéger. Et donc on va demander à ce moment-là aux parents qui en formulent le désir d'observer dans leur entourage s'il n'y a pas une addition ou une compulsion d'éléments très négatifs, c'est-à-dire s'ils ne traversent pas une période d'extrême précarité, je pense au chômage, s'il n'y a pas en plus de cela des gens en fin de vie ou qui ont des pathologies très lourdes à ce moment-là, s'il n'y a pas de procès, s'il n'y a pas trop de conflits, etc., etc. Bien sûr, il n'existe pas d'existence complètement aseptisée, mais en général, il faut que les éléments se surajoutent de façon très négative pour qu'il y ait un appel à la prudence. Et puis ça, c'est une position et c'est un choix, effectivement, encore une fois, je me répète, qui peut être tout à fait légitime. À l'inverse, et on s'en doute, il n'existe pas de moment idéal pour avoir recours à une IVG. Là, par contre, on peut considérer aussi les choses de façon beaucoup plus positive que ce que ce terme pourrait l'induire. Je suis partie de l'expression « interrompre une grossesse », c'est-à-dire « rompre entre ». Et cela m'a amenée au terme « séparation », en latin « séparare ». Si on isole le phonème « c », « ce », du reste de l'expression par arrêt. Et si nous contractons, sans mauvais jeu de mots, ce terme par arrêt, nous nous retrouvons avec se parer. Donc on voit bien qu'effectivement, que dans une notion de séparation, il y a une notion de protection, se protéger, se vêtir. Et cela m'a renvoyé à la fonction placentaire, qui est tout aussi ambivalente, puisqu'effectivement, je le disais encore une fois tout à l'heure avec le parexcitation, dans la fonction placentaire, il y a un élément protecteur, certes, on le sait, mais il y a aussi cet élément qui fait barrage et qui nous coupe de l'altérité. En ce qui concerne cet élément de séparation, il ne peut avoir d'intérêt que remis dans le contexte de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'IVG, bien sûr, et une possible culpabilité quant à l'IVG. Donc, culpabilis, culpa, la faute. Et l'on voit de fait qu'il peut y avoir, si une IVG effectivement fait sens, coupure avec une dette transgénérationnelle qui n'est pas la sienne. On l'a vu tout à l'heure dans l'exemple de cette patiente, effectivement, qui avait eu recours à deux IVG pour s'identifier à une grand-mère maternelle idéalisée. Donc, l'IVG, de fait, peut amener exactement une délivrance telle qu'on peut la rencontrer à la suite, bien sûr, d'une naissance. Et d'ailleurs, malheureusement, à l'inverse, toutes les naissances n'amènent pas de délivrance. Bien au contraire, on sait que certaines grossesses abouties, au contraire, sont des grossesses règlement de compte et qui vont continuer à pathologiser, bien sûr, la filiation. Alors, pour déculpabiliser, bien sûr, un inconscient d'une faute qu'il n'a pas commise, et bien là encore, et comme toujours en analyse, nous allons mettre l'existence d'une jeune femme qui, pour des raisons personnelles, décide d'avoir recours à une IVG en miroir. Et nous allons lui demander donc d'observer ce qui se passe dans sa vie depuis le départ de la gestation, bien qu'elle ait décidé encore une fois d'interrompre la grossesse, mais d'observer ce qui se passe en positif, de façon effectivement à ce que ce lien névrotique, donc très négatif, puisse commencer à se dissoudre. Et c'est ainsi effectivement que l'inconscient va quitter une douleur, c'est-à-dire un douleur, et l'IVG peut devenir tout à fait structurante dans ce cas-là. Et d'ailleurs, j'ai choisi, avant d'accueillir vos questions, de terminer par une phrase très ambivalente de Jacques Lacan, qui avait l'art, bien sûr, de nous pousser à nous interroger, puisqu'il nous a dit que, de toute façon, ne pas perdre, c'est se condamner à ne pas exister. Merci de votre attention.
Des questions ? Témoignage.
Bonjour, Virginie Maiglet, je suis psychanalyste et psychothérapeute, je travaille essentiellement avec des enfants. Là, il y a un thème que vous venez de faire, j'apprécie vraiment votre exposé, mais il y a un thème que vous avez dit, il me semble, cette femme qui avait avorté par idéalisation d'un grand-mère maternelle. Alors, ce qui m'étonne, moi, c'est que parmi les personnes que j'ai pu...
On entend très mal, en fait.
C'est l'impression que j'ai. Voilà, bon. Là, moi, j'ai vu le cas d'une personne qui a appris que sa grand-mère avait avorté de deux jumeaux parce qu'elle-même était obsédée, elles étaient deux sœurs, une qui avait été qui était obsédée par l'avortement, qui n'avait pas d'avorté, qui se mettait toujours dans des situations de risque d'avortement, et sa sœur parlait sans cesse de vouloir avoir des jumeaux. Et elle allait voir sa grand-mère en parlant de jumeaux, apparemment sans savoir pourquoi. Et l'histoire a fait que a fait ressortir que cette femme, la grand-mère, avait avorté de deux jumeaux, d'une façon assez violente, avec des aiguilles à tricoter, Et donc, moi, plutôt que l'idéalisation, j'ai l'impression que parfois l'avortement revient plutôt pour faire ressurgir la mémoire. Et avec un peu comme si on héritait d'une faute qu'on n'avait effectivement pas commise, mais aussi on refusait de prendre, on avait envie de faire éclater des choses, plutôt que par idéalisation.
En analyse, s'il n'y a pas idéalisation, il n'y a pas reschématisation.
Oui.
D'autre part, on le retrouve dans l'exemple là, que j'ai cité, puisqu'il y avait même une reschématisation, bon, certes avec un déplacement, mais quant à une vie pseudo-professionnelle, puisque la grand-mère était pianiste dans des cabarets, cette patiente chantait dans des bars.
Oui,
mais il faut qu'il y ait, pour qu'il y ait reschématisation, il faut toujours qu'il y ait idéalisation. Il faut qu'il y ait un idéal du moi, de toute façon, parce qu'on ne va jamais reschématiser l'histoire de quelqu'un que l'on n'aura pas idéalisé. On n'ira pas inconsciemment se coller dans une galère pareille. Et puis, ça ne marcherait pas de toute façon. Il faut toujours qu'on ait des invariants pour qu'il y ait reschématisation. Regardez quand on monte des généalogies, le nombre d'invariants qu'il y a, le nombre de compulsions de répétition. Mais c'est toujours sur un idéal du moi à la base.
Oui, oui, effectivement, la signification de deux termes, je suis d'accord sur le fond, mais en me disant en même temps, moi j'ai vu qu'après, une fois quand les histoires sortent, les choses sont remises en place, tellement, enfin, sont remises en place, effectivement, à ce moment-là, l'avortement n'est pas forcément accepté non plus, mais les relations sont changées. Mais donc c'est une idéalisation qui est presque, je dirais, presque au niveau inconscient, parce que c'est
pas ça. Ah, passe, elle n'est qu'au niveau inconscient. L'idéalisation, l'idéal du moi n'est qu'au niveau inconscient. Bien sûr, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont livrées sur des effets d'après-coup et qui, justement, très souvent arrivent, et curieusement, lorsque la guidance de cure a amené une désidéalisation. Puisqu'on ne peut pas quitter la position de faux self tant qu'il y a idéalisation de cet autre. Bien sûr, au moment où l'inconscient peut le supporter quand il y a une maturité pulsionnelle suffisante.
Oui. Mais ce que je vois là-dedans, c'est qu'effectivement, par rapport à une... C'est pas, moi, je ne l'ai pas senti finalement plus ça va en travaillant. Je le sens moins par rapport à une personne que vraiment par rapport à une histoire et que par rapport à une histoire effectivement transgénérationnelle. Et donc, sur l'interrelation qui se passe entre...
C'est-à-dire, oui, mais je comprends ce que vous voulez dire, mais regardez, on a la même problématique, je sors complètement là du contexte d'aujourd'hui, mais avec des patients qui nous disent « mon enfant me déteste, il a 14-15 ans, il m'insulte, il me répond ». Or, on sait que plus un Œdipe est fort, plus il va être masqué. Ce sont toutes les formations de compromis qui se mettent en place à ce moment-là, et tous les mécanismes de défense. Et effectivement, il y a une confusion amour-haine. Et dans l'idéalisation de l'autre, il y a une confusion amour-haine. D'autre part, moi j'ai pris les grandes lignes d'un cas clinique, mais on retrouve l'idéalisation, bien sûr, par reschématisation des gens, encore une fois, pseudo-professionnels.
Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est comment, quand une personne se soigne, enfin, non pas se soigne, se prend en main, à quel point elle peut libérer une famille.
Ah, tout à fait.
Parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir dans des lignées comme ça, souvent par deux, il y avait deux filles. J'ai vu très souvent, il y a deux filles. Toujours deux filles, la mère étant partagée dans les deux filles.
Et oui, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, puisqu'il est bien évident qu'une IVG peut devenir extrêmement protectrice pour l'enfant ou les enfants post-IVG, d'ailleurs, si un travail suffisant est mis en place, et de toute façon sur les générations qui en découlent, voire sur l'entourage, d'ailleurs, immédiat.
Ah oui, mais c'est... Merci.
Parce que la dette, quand même, la dette filiale, n'est pas portée non plus par tout le monde dans une famille.
Alors ça, je dirais juste, elle n'est pas portée par tout le monde, mais quand même...
Elle éclabousse tout le monde.
Elle retombe sur un, si un se libère, à ce moment-là, chacun a sa part. Oui. Enfin, ça peut...
Oui. Avec le symptôme qui est complètement dénié, caché, évité, etc., déplacé, et qui prend d'autres formes.
C'est pour ça que dans le pire des cas, ça fait effectivement la bête noire, qui est la malade, ou le malade, qui a tous les défauts du monde pour la famille. Mais si effectivement il se prend en charge, c'est pour ça que c'est vraiment une famille, une génération, une lignée qui est porteuse de souffrance.
Bien sûr.
C'est à vous.
Autre intervention ?
Non, mais tout ça, ça me passionne vraiment, je vous remercie. Moi, je peux dire le cas d'un petit peu, je crois que c'est ce qui s'est passé dans ma famille. La sœur de mon grand-père maternel est une jeune femme espagnole, qui s'appelait Marie-Neige. Et Donc mon grand-père avait perdu sa mère, il y avait 7 enfants, et cette fameuse Marie-Neige avait pris en charge les 7 enfants, elle les a élevés, une des sœurs donc, de mon grand-père. Et cette femme s'est mariée, je crois, parce qu'on n'en parle pas beaucoup hein, dans la famille, elle s'est mariée et elle est morte en couche. Et mon grand-père donc idéalisait cette sœur, et pratiquement les 4 sœurs, les 4 cousines germaines, il y en a, enfin, le prénom Marie-Neige revient très, très souvent dans la lignée. Et parmi les 4 cousines germaines, donc moi, ma sœur et mes 2 cousines germaines, qui sont donc les filles de mon grand-père, on a toutes avorté. Et moi, quand j'ai accouché par césarienne, en fait, la préparation à l'accouchement s'est faite dans une maternité qui s'appelait Blanche-Neige. Et ça revient tout le temps.
Ouais. Merci, c'est bien aussi comme témoignage, parce que très souvent on est pris pour des extraterrestres en tant qu'analyste lorsqu'on joue avec la linguistique, mais c'est très fréquent ça.
Autre intervention ?
Il n'y a pas d'autres questions ? Non, on arrête là, si vous le désirez. On reprend à 13h30. Merci.